Vous écoutez un épisode de Fruits de la Passion réalisé par Mathilde Largeteau. Quand j'enregistre quelqu'un, sa voix et son discours passent par le filtre d'un micro et d'un casque avant d'arriver dans mes oreilles. Quand je l'écoute, je suis concentrée sur ce qu'il me raconte pour pouvoir interagir avec lui, mais aussi sur l'environnement sonore, sur la qualité de mon enregistrement, pour pouvoir vous partager son discours de la façon la plus claire et intelligible possible. Depuis quelque temps, je réalise que j'arrive à écouter ces tranches de vie de façon assez neutre et objective à travers ce filtre. Je reçois ce qu'on me dit comme de la matière informative sans que ça m'impacte sur le moment. Pourtant, dans la vie de tous les jours, parfois quand on me raconte une histoire, je me projette, je commente, je me fais un avis sur la situation, que parfois je partage alors qu'on ne me l'a pas forcément demandé. Il n'y a plus de filtre sur lequel m'appuyer pour prendre du recul, qui m'aide à ne pas réagir et à surtout bien écouter. Stéphanie raconte le poids qui a pesé sur son histoire. Les projections que les gens lui renvoyaient à propos de ce qui venait d'arriver à son compagnon et elle. Elle nous explique comment elle a réussi à s'en détacher pour pouvoir avancer. Space Oddity de David Bowie est la chanson que Stéphanie a choisie pour ouvrir son épisode. Celle qui représente le mieux pour elle la période dont elle va nous parler.
Tout a basculé quand j'ai perdu ma fille. C'était en mars 2017. Après plusieurs années de PMA, je suis tombée enceinte. J'ai eu une super grossesse qui s'est très très bien passée. Et en fait, pendant l'accouchement, au moment de sa naissance, ma fille est morte. Donc c'était un accident, on n'a jamais vraiment su ce qui s'était passé. Et à ce moment-là, il y a un truc qui s'est passé qui fait à la fois un stop et à la fois un emballement. J'ai l'impression que ma vie pouvait pas continuer telle qu'elle était. C'était plus possible. J'étais passée à autre chose. Je savais pas à quoi. Ça ne pouvait pas avoir lieu. Ben, en l'occurrence, j'étais prête à être mère et je pouvais pas l'être. Ma vie avait évolué. Et puis tout d'un coup, en quelques minutes, il fallait qu'elle reste pareille. Il y avait quelque chose d'horrible à la fois dans l'événement et dans la projection que j'avais sur ma vie. En gros, j'avais plus rien, je savais plus du tout à quoi me raccrocher. Et tout ce qui s'est passé suite à la mort de Roman a fait que je me suis dit que c'était pas possible, je pouvais pas rester comme ça, avec les mêmes relations, la même vie, sans faire plus. J'avais besoin que ce que je vivais soit utile à d'autres. Je me suis sentie tellement seule après la mort de Roman que je me suis dit c'est pas possible. En fait, ça, je voudrais permettre à d'autres personnes de pas se sentir seules comme ça. Alors quand je dis seule, c'est pas vrai. J'ai été entourée par ma famille, par la famille de mon conjoint, par mon conjoint. J'ai eu beaucoup de chance. On s'est raccrochés l'un à l'autre très très fort. Et j'avais des gens autour de moi qui étaient vraiment super. Mais ce dont on avait besoin, en fait, on l'a pas trouvé. On avait besoin de témoignages. On avait besoin de partager avec des gens qui avaient vécu ça. On avait besoin de comprendre, en fait, ce qui nous arrivait. Ces espèces de trucs super bizarres. Et ça, on l'a pas trouvé. Et je crois que petit à petit, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. Faut que j'utilise toute cette énergie que j'ai pour permettre à d'autres d'avoir un endroit où c'était possible de partager ça et d'en parler et de savoir qu'en fait, ça va. C'est ce qui s'est passé juste après, ce moment où t'es complètement sidéré, tu comprends que ta fille est morte, et puis il y a tout qui s'emballe, les médecins qui viennent, on t'explique des trucs inexplicables, parce qu'en fait même eux ils comprennent pas ce qui s'est passé. Il faut prendre des décisions administratives, on te dit il faut aller aux pompes funèbres, vous voulez faire quoi, vous voulez qu'on s'en occupe, vous voulez l'enterrer. Il y a des décisions dingues qui se passent dans un espace de quelques heures en fait. Et toi t'es là, t'es complètement sidérée, enfin moi j'étais complètement sidérée, on me posait des questions, j'y répondais. Il y avait vraiment un pilote automatique qui était là, un psychiatre qui vient, qui raconte des trucs, je trouvais ça débile ce qu'il me racontait. Et en même temps, je voyais que ça touchait mon mari, donc je disais, ok, bon, moi, il y en a un des deux à qui ça parle. Et moi, je disais, mais non, c'est pas possible qu'il nous parle de théorie. Mais bon, c'était hyper bizarre. Et j'étais à la fois complètement dans ce qu'on me disait et totalement dissociée à l'extérieur de ça, je m'observais réagir. C'était vraiment un truc très, très bizarre. Cet état-là, il a duré 15 jours. Le temps qu'on gère les obsèques, prévenir tout l'entourage de ce qui s'était passé. Et tout ce moment-là, où en fait, on est aspiré dans un tourbillon de décisions à prendre. Et ça donne un peu l'illusion qu'on continue à vivre. Il y a tellement de choses à faire. Notre entourage était fabuleux. Tout le monde se relayait pour nous aider. Mais malgré tout, on avait, nous, toutes ces décisions-là à prendre. Enfin, la visite aux pompes funèbres, choisir. Enfin, c'est des décisions sans arrêt qui sont hyper étranges. Et où j'arrêtais pas de me dire, mais c'est moi qui vis ça. Et en même temps, à ce moment-là, je cherchais absolument des témoignages d'autres parents qui avaient vécu ça. Et je me retrouvais dans rien, parce que tout ce que je lisais, tout ce que je voyais, c'était extrêmement romancé. Ça terminait toujours par « maintenant on attend d'autres enfants, donc tout va bien ». Et c'était pas du tout ce dont j'avais besoin. J'avais juste besoin qu'on me parle de ce moment-là où t'es complètement écrasé et de qu'est-ce qui se passe après. On avait juste une question, c'était « qu'est-ce qui va se passer après ?». Et donc le « après » arrive assez vite. Une fois que les obsèques sont terminées, tout d'un coup, tu te retrouves toute seule chez toi. Et là, c'est... qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on a eu un élan. Nous, on n'est pas restés dans la maison. On est partis une petite semaine. Et je crois que c'était très, très bien. Parce qu'on a... on a repris un peu d'air. On a toute notre tristesse, en fait, qui est tombée. On n'était pas chez nous. Et du coup, on a eu un sas. Mais malgré tout, il y a eu le jour où on s'est dit, maintenant, on va rentrer. Et comment ça va se passer quand on va rentrer ? Et puis là arrive une autre étape où on était tous les deux à la maison et en fait on s'est mangé des séries toute la journée. On s'est soigné à la série télé. En fait, on était complètement drogués à ça et c'était génial parce que ça nous empêchait de penser trop. Et on s'est dit tous les deux, ça fait du bien en fait. Il y a un truc assez superficiel dans ce qu'on fait qui nous détache de la douleur. Parce qu'en fait, à ce moment-là, il n'y a pas grand monde autour de toi. Nous, on a eu nos familles sur le moment, et à ce moment-là, ils ne savaient plus très bien comment faire. Nos amis n'étaient pas très présents, je pense qu'ils ne savaient pas du tout comment réagir. C'est un truc qui est hyper dur. Déjà, en France, on n'est pas très bon sur le deuil, mais alors le deuil d'un bébé, c'est encore autre chose. Tout le monde projette des choses qui sont très personnelles, et là, moi, j'étais très en colère. Après moi, parce que je n'arrivais pas à dire ce dont j'avais besoin. Et c'est là que j'aurais eu le plus besoin d'aide, en fait. À ce moment-là, où je me demandais si j'allais ressentir à nouveau quelque chose, parce que j'avais vraiment l'impression d'être complètement anesthésiée. Et je me disais, mais c'est pas possible, combien de temps ça va durer ? On avait des messages, on avait des gens qui étaient pas très loin, mais ils étaient quand même pas très présents. Beaucoup parce qu'en fait, on les empêchait de s'approcher, parce qu'on savait pas quoi leur demander. Et puis, petit à petit, certains ont réussi à forcer le passage, tout simplement, nous disant, je viens. Je reste 10 minutes, mais je suis là. Et ça, ça nous a fait du bien. On a pu parler de ce qu'on avait vécu. Peut-être jamais de ce qu'on ressentait. C'est peut-être la seule question que personne nous ait jamais posée, c'est comment ça va ? Comment ça va vraiment ? On a beaucoup raconté ce qui s'était passé, comment on l'avait vécu, mais pas comment on allait. Et puis, là-dessus, le temps est passé, donc mon conjoint a repris le boulot, moi j'étais encore en congé, maternité, ce qui est hyper paradoxal. Parce que tu passes tes journées à remplir des documents CAF, à expliquer à la CAF qu'en fait, tu peux pas leur envoyer l'attestation de naissance parce que c'est une attestation de décès. Et puis, tu reçois un papier en disant « il faut nous rembourser tout ça parce que vous nous avez pas envoyé l'attestation de naissance ». Eh ben non, en fait, je peux pas vous l'envoyer, l'attestation de naissance, parce qu'en fait, c'est une attestation de décès. Et ils comprenaient pas. Et puis, un jour, il y a un chef de service qui a dû lire mon document et j'ai reçu un appel désolé de quelqu'un me disant « on est complètement navré des 3 semaines qu'on vient de vous faire passer ». On n'avait pas réalisé. Le dossier s'est pas mis à jour. Et ça, ça marche avec la CAF, mais ça marche aussi avec ton employeur. Ça marche aussi un peu avec tout le monde. Mais voilà, à nouveau, c'est un espèce de truc de mouvement administratif qui permet d'être en colère. Moi, ça m'a été très utile parce que ça me donnait une dérivation pour être en colère contre quelque chose. Parce que contrairement à ce que tout notre entourage nous poussait à faire, c'est-à-dire trouver la cause de la mort de notre fille et nous mettre en colère contre cette cause, nous, ça nous intéressait pas. On a très vite compris qu'on ne saurait jamais pourquoi elle était morte. Et en fait, s'acharner sur ça ne nous aidait pas du tout à avancer. Là aussi, il y a eu un grand moment où il a fallu faire comprendre à notre entourage que non, on n'allait pas rentrer dans des procédures juridiques, on n'allait pas faire de procès aux gens, que c'était horrible ce qu'on avait vécu, mais peut-être juste qu'en fait, c'était arrivé. Et que non, on n'allait pas faire plus que ça. que le vivre. Ça, ça a été compliqué, en fait. Ça a été hyper compliqué, parce qu'on était beaucoup jugés sur ça. Comment ça, vous allez pas vous battre? Mais nous battre contre quoi, en fait? Elle est morte. On va peut-être se battre pour vivre, pas pour rester enfermé dans un souvenir. Et je crois que c'est là que moi, j'ai commencé à me dire, il faut que j'en fasse quelque chose. Je veux pas rester enfermé dans quelque chose que j'ai vécu. Je veux que ce que j'ai vécu m'aide à être la personne que j'ai envie d'être. Et donc là, mon conjoint a repris le boulot et moi, je me suis dit, je peux pas rester toute seule toute la journée à attendre. À attendre quoi? J'avais encore un mois et demi, je crois, devant moi. Et je me suis dit, bon, non. Depuis longtemps, je voulais changer de boulot. Donc je me suis dit, c'est le bon moment, mais changer, pourquoi? J'avais tout planifié, j'étais censée repasser à mon compte sur une activité que je n'avais plus du tout envie de mener. Et là, je me suis dit, c'est très bien, qu'est-ce que tu as envie d'être? Et c'était vraiment cette question, c'était pas une question identitaire, c'était pas du qui est-ce que j'ai envie d'être, c'était vraiment du quoi. J'ai envie d'amener quoi au monde? Et là, j'ai commencé à me demander. J'ai jamais répondu vraiment à cette question, jusqu'à très récemment. Par contre, mon chemin m'a fait découvrir des manières d'être au monde qui me plaisaient plus. Et c'est là que j'ai découvert l'hypnose, c'est là que j'ai découvert plein de choses qui me permettaient d'être bien plus présente aux personnes avec qui j'avais envie d'être présente. Donc ça m'a rendue à la fois extrêmement ouverte et totalement intolérante.
Et ce qui était bien dans ma vie aussi, hein.
Et puis, je me suis remise à travailler. Et là, ça a été super dur. Parce que, à nouveau, les projections des uns et des autres. Le jour de ma reprise de boulot, j'ai deux collègues qui ont passé la journée à me montrer les photos d'anniversaire de leur petite fille de 1 an. Le jour où je reprenais le boulot.
Donc, c'était super. J'ai terminé la journée en larmes, dans les bras de ma DRH.
Et puis, les semaines qui ont suivi, ça n'arrêtait pas. On venait me raconter des trucs, puis que j'avais pas envie d'attendre. J'étais au boulot, je voulais juste qu'on parle de boulot et qu'on me fiche la paix. Et on venait me dire, ouais, mais ça nous est arrivé à nous aussi. En fait, non, on me parlait d'autres choses. On me parlait d'autres drames. Et il n'y a pas de graduation dans le drame. Mais c'était pas le mien. Encore une fois, j'étais assimilée à une situation parce que moi, je vivais. Et c'était dingue parce que j'écoutais des gens me raconter leur fausse couche, j'écoutais des gens me raconter la mort de leur père. Et toute la journée, en fait, on me racontait des décès. Et moi, j'étais là, je disais rien. Et au bout d'un moment, je finissais par me mettre à pleurer et je partais. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, faut arrêter. Et en même temps, tout doucement, ça passe. Parce que y a des gens autour de toi qui t'emmènent en week-end, il y a des gens autour de toi qui t'invitent à des barbecues, qui viennent prendre des nouvelles, qui font attention et qui jugent pas. Et ça, j'ai réalisé que c'était peut-être ce qui m'aidait le plus, de pas être jugée, parce que c'est peut-être ce que j'ai eu le moins à ce moment-là. Cette période-là, elle a duré un petit moment parce que c'était un moment où j'étais vraiment en transition. Je voulais absolument faire quelque chose de mon énergie et j'avais pas de réponse. Du coup, j'étais à la fois dans une phase où je pouvais pas parler de ma fille, je me mettais à pleurer. Et en même temps, je me disais, c'est pas possible. T'as un foyer d'énergie là-dedans que tu dois utiliser. Je sentais que j'étais sur un chemin, mais je savais pas très bien lequel. En même temps, je me faisais confiance, je continuais. Donc j'ai quitté mon boulot, j'ai ouvert mon cabinet. J'ai commencé à réellement m'éclater professionnellement, me rééclater professionnellement. Mais ça réglait pas mon histoire de positionnement par rapport à la vie. Et puis je voulais absolument que ma peine, elle s'en aille. Et là, c'était un moment hyper dur, parce qu'en fait, c'était exactement ce qu'attendait mon entourage. Ça faisait à peu près 1 an que ma fille était morte, et plus personne ne comprenait que je sois triste.
Et on attendait qu'en fait, j'aille mieux. Parce que c'est bon, ça va, ça fait 1 an, quoi.
Et c'est aussi le moment où plus personne ne voulait parler de la mort de ma fille et plus personne ne voulait que j'en parle. Les gens n'osaient pas m'en parler. Quand je dis les gens, c'est mon entourage même proche. C'est le moment où c'est devenu compliqué. Ça aurait été pratique pour tout le monde en fait, que moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, que j'ai pas perdu ma fille. Parce que ça commençait à devenir dur. On m'a laissé pendant plusieurs mois faire un peu ce que je voulais, mais au bout d'un an, c'était bien de re-rentrer dans les codes sociaux, de re-rentrer dans les manières de faire sociales et attendues. Et ça, moi, c'était plus possible du tout d'accepter ça. Ça me rendait triste de pas faire ce qu'on attendait de moi, aussi bien dans ma famille qu'avec mes amis, mais c'était pas possible, je pouvais pas tricher. C'est un moment où je suis retournée voir plusieurs thérapeutes en leur disant « il faut plus que je sois triste, parce que ça m'empêche d'être rationnelle ». Évidemment, ça ne marchait pas. Et puis, en fait, ça a été le moment où j'ai basculé. C'était tellement compliqué, ça m'a tellement révoltée de voir que tout le monde attendait de moi que j'aille mieux, que je me suis dit « mais c'est fou ça, ça n'arrivera jamais. Et là, j'ai commencé à dire, en fait, ça n'arrivera pas. Je serai toujours touchée par ce sujet-là. J'aurai toujours perdu ma fille. Et ça m'a fait un bien incroyable. J'ai eu l'impression d'arrêter de faire ce qu'on attendait plus ou moins de moi et d'être moi. Et je me rappelle du jour où je l'ai dit pour la première fois. En fait, ça n'arrivera pas. Je n'irai pas mieux comme vous l'attendez. J'aurai toujours perdu ma fille et ça sera comme ça. Ça a été tellement libérateur qu'après je l'ai raconté à plein de gens et j'ai forcé les gens à m'écouter. Et ça s'est bien passé. Et ça a été dur pour eux, pas pour moi. Mais je m'en foutais parce que ça faisait un an que je les écoutais me raconter des trucs dont j'avais rien à faire. Et c'était tellement bon de dire à mon entourage « Stop, ça suffit en fait, c'est pas comme vous, vous le pensez, je ressens des choses différentes, je ne suis pas d'accord avec votre manière de juger ma situation. » Et ça, ça a été très très bon. Et je crois que c'est à partir de là que ouais, je suis devenue celle que j'avais envie d'être et en portant un vrai truc fort à l'intérieur de moi qui est que je redeviendrai pas la même personne qu'avant et que c'était comme ça. Et que j'étais très triste que ça plaise pas. Et j'ai perdu des gens, mais c'était volontaire en fait. Je suis très contente de plus les voir. Et je crois que le dernier truc que j'ai fait, ça a été d'assumer complètement qui j'étais. Aussi bien les côtés qui étaient faciles à assumer parce que je les aimais bien, que les autres côtés qui étaient peut-être plus durs pour mon entourage à prendre. Mais ça, c'était il y a pas très très longtemps quand même. Je pense que c'était le plus bas qui a permis de générer le plus haut. C'était un week-end en famille qui a été horrible. Horrible. J'en suis partie, j'ai cru, détruite. Ça a été pendant un an et demi, t'as pas été là, t'es jamais venu aux événements. Il y a eu plein de réunions familiales, t'y étais pas, alors que t'es allé à des événements chez tes amis. C'était mon rapport aux enfants qui était très compliqué. J'avais beaucoup de mal à voir les enfants en bas âge. J'avais beaucoup de mal à voir des familles. Je me suis sentie reprocher beaucoup de choses. Je sais pas si on me l'a vraiment reproché. Les mots que j'ai entendus, je me suis sentie reprocher beaucoup de choses. Et ça a été insupportable. Parce que ma première réaction, ça a été « C'est vrai, vous avez raison, j'aurais dû faire plus d'efforts ». Et au moment où j'ai dit ça, je me suis totalement révoltée contre moi-même en me disant « Mais en fait, non. Oui, ça aurait pu être différent, j'aurais pu le vivre différemment, mais ça aurait voulu dire que je conscientisais tous ces événements familiaux auxquels je n'ai pas pu aller, en fait. C'était trop dur de me retrouver devant toute ma famille que je connaissais depuis ma naissance avec ce deuil de bébé. J'avais besoin d'attendre, de l'avoir intégré vraiment, de savoir ce que ça voulait dire. Avoir perdu un enfant, ça veut dire plein de choses, et j'avais besoin de savoir ce que ça voulait dire. Je ne suis pas encore complètement convaincue d'avoir tout compris, mais ça va vachement mieux. Et en tout cas, cette première année, j'en étais pas capable. Et quand on m'a reproché de pas avoir été là pour ma famille, ouais, ça a été insoutenable pour moi. Mais encore une fois, parce que ma première réaction, ça a été « Vous avez raison ». Et quand j'ai réalisé que je disais « Vous avez raison », vraiment, il y a l'intérieur de moi, la Stéphanie à l'intérieur, qui a allumé un feu énorme en disant « Mais non, non, tant pis, mais non ». Et c'est l'effet phénix. Il m'a fallu 2 heures pour rentrer chez moi. En 2 heures, j'étais transformée. Tellement ça a été dur, ça m'a permis d'aller à l'intérieur de moi, mais au plus profond, et de me dire « C'est ça que je veux être, tout ça, en fait, c'est plus possible, je n'en veux plus ». J'ai vraiment eu l'impression de mourir brûlée, et en même temps, d'en ressortir, en me disant « Mais d'où je laisse ce pouvoir à d'autres de me faire du mal ? Mais jamais de la vie, en fait ». Et ça a eu pour effet que très rapidement, personnellement et professionnellement, je me suis repositionnée. Et dans ma famille, j'ai su comment être avec ma famille pour avoir à nouveau de bonnes relations. Et ça a été compliqué parce que ça voulait dire aussi accepter les émotions des autres vraiment à ce moment-là, et je ne savais pas si j'en étais capable. Mais d'accepter tout ça, d'accepter leur point de vue et de surtout me dire « je peux les accepter en n'étant pas d'accord ». Et ça, ça m'a vachement aidée. Donc ouais, le pire moment et du coup le meilleur moment, je crois que c'était le même. Ouais, ça a été ce moment pivot. Pour un moment, je reviendrai dessus, puis de toute façon, je peux pas. Maintenant, ça fait vraiment partie de moi. J'ai l'impression que maintenant, c'est de l'expliquer. Enfin, c'est pas tant d'expliquer mon choix, c'est de partager ce que j'ai vécu. C'est ça le truc qui me reste à faire. Et pas forcément en racontant, moi, la perte de ma fille, mais plutôt en ouvrant des espaces à des personnes qui ont vécu ça, le deuil d'un enfant et le deuil d'un bébé notamment, en ouvrant des espaces pour qu'il puisse y avoir de l'échange là-dessus, pour pouvoir leur dire « Ouais, c'est compliqué, vous allez avoir mal à en crever. » Et puis ça va pas s'arrêter de suite. Parce que moi, on m'a dit « Oui, t'inquiète pas, ça va s'arrêter. » Bah non, en fait, c'est un gros mensonge. Ça, ça pèse, hein, oui. Mais ça s'arrête pas. Et le truc, c'est que quand on te dit « ça va s'arrêter », tu le sais que c'est un mensonge. Et donc, ça rend la douleur encore plus forte. Il y a vraiment un truc qui se passe à l'intérieur de moi sur ça. Rendre hommage à ces émotions hyper bizarres qu'on ressent. Dire que c'est vrai, ça se passe, en fait. C'est des vrais événements qu'il y en a. Il y en a beaucoup. Des pertes de bébés sur des fins de grossesse, il y en a beaucoup. Sur des naissances, sur des premiers jours. Et en fait, on n'en parle pas. C'est complètement tabou. Heureusement, il y a de plus en plus de personnes qui témoignent de ça, mais on va beaucoup plus parler de décès de bébés malades sur des fins de grossesse, mais par contre de la mort de bébés en pleine santé, ça, on n'en parle pas du tout. Et moi, je trouve ça dommage parce que les parents et l'entourage des parents ne savent pas comment réagir quand ça arrive. Il y a un truc qu'on m'a dit, je crois 15 jours après la mort de ma fille, c'est... une psychologue en Espagne qui m'a dit « C'est fou parce que moi, quand j'ai appris que j'étais enceinte, la sage-femme m'a fait signer un papier en disant que je savais qu'il était possible que je ne rencontre jamais mon enfant. » Et j'ai trouvé ça hyper violent, elle m'a dit ça. Et je lui ai dit « Mais en fait, c'est génial. Ça vous explique qu'en fait, vous n'êtes pas sûre et vous le savez. » Alors que moi, je ne savais pas que c'était possible, en fait. Toute ma grossesse, à partir du moment où on m'a dit « Votre bébé est en bonne santé », on m'a dit « C'est bon, maintenant, c'est tranquille, en fait. » À aucun moment, on m'a dit qu'il était possible que ça le soit pas. Je pense que ça vaut le coup de le savoir dans la vie de tous les jours, en fait, sans forcément être relié à une grossesse. Je pense que c'est important d'entendre parler du deuil périnatal. Je pense que c'est important aussi pour les parents, et c'est important pour l'entourage des parents. Parce que c'est hyper dur. Pour rien au monde, j'aurais voulu être dans mon entourage. C'est hyper dur. On ne sait pas comment réagir. Ça a sacrément impacté notre relation, mais dans le bon sens du terme. Très rapidement, mais la nuit après la mort de notre fille, on s'est dit, et on se l'est dit, on l'a pas pensé chacun de notre côté. On va se traverser ça ensemble, sinon on n'y arrivera pas. On a conscientisé tout de suite que si on se parlait pas, si on le vivait chacun de notre côté, ça allait nous séparer. C'était beaucoup trop fort pour être vécu tout seul. Et ça nous a sacrément rapprochés. Ça a solidifié notre couple. On a atteint un niveau de complicité, de partage. Notre couple allait très très bien avant. Mais je ne sais pas si on aurait eu ce niveau de partage si ce n'était pas arrivé. En fait, on a commencé à tout se dire de nos émotions vraiment, de ce qu'on ressentait, comment on vivait les choses. Et c'est resté. Maintenant que ça va bien, ça reste. On se raconte comment on va, comment on ressent les choses. Ouais, la complicité que ça nous a donnée est vraiment restée. C'est l'importance de l'entourage. C'était compliqué pour eux, ils savaient pas toujours comment se positionner. Parfois, ils étaient pas du tout là, parfois ils étaient là. Mais en tout cas, notre entourage familial a été incroyable. Incroyable. Même si je dis que j'ai eu un moment très compliqué, en même temps, c'est grâce à eux. Si j'avais pas eu ma famille et la famille de mon conjoint, enfin, ça aurait été vraiment, vraiment difficile. Ils ont été fabuleux. Et notre entourage amical a été dingue. Et je sais à quel point c'était difficile, parce qu'ils commencent à nous en parler. Avec certains, on en a parlé très vite, parce qu'ils nous ont dit très vite, c'est super dur, faut nous dire comment faire, on a envie de vous aider. D'autres l'ont pas dit. Mais là, maintenant, moi, je les questionne dessus. Du coup, ils commencent vraiment à nous le dire. Et c'était super difficile pour eux. Mais ça reste difficile pour eux. Ils osent pas... Je vois, quand j'aborde le sujet et quand je parle de Roman... La discussion se fige à table. Si on est en train de manger, tout le monde se glace. Parce que, je sais pas, on attend, peut-être que je mette à pleurer. C'est super dur pour l'entourage de vivre ça, d'accompagner des gens qui vivent un deuil périnatal. Alors, il y a des gens qui sont sortis de notre vie, mais c'est pas très grave, parce que ceux qui y sont, heureusement qu'ils y sont. Non, il n'y a pas de recette magique, mais il y a un truc à faire. Les personnes qui vivent un deuil périnatal savent pas ce dont ils ont besoin. parce que ça change toutes les 10 minutes. Par contre, leur demander ce qu'ils ressentent, et pour de vrai, ça c'est top, et leur laisser des espaces pour parler de ce qu'ils ont vécu, et notamment de leur enfant, ça c'est top. Parce qu'en fait, c'est typiquement ces deux trucs-là qui n'arrivent pas. Je ne l'ai jamais verbalisé à personne. Mais même encore, hein, je crois que je ne l'ai pas verbalisé. Je me demande si ce n'est pas la première fois que je le dis à voix haute. Je l'ai beaucoup dit à des thérapeutes que je trouvais nuls. Je l'ai beaucoup dit à des thérapeutes que j'ai trouvé fabuleux, qui m'ont très bien accompagnée, qui m'ont peut-être un peu sauvé la vie pile au pire moment. Mais je ne l'ai jamais dit vraiment. Est-ce que quelqu'un peut me demander comment je vais ? Au lieu de me projeter ce que vous vivez, au lieu de me projeter ce que vous pensez que je vis. Ah, j'ai entendu souvent, ça doit être horrible pour toi. Mais voilà, on ne m'a pas demandé comment j'allais. Si je me retrouvais face à la Stéphanie qui est dans le pire de ce moment-là, qu'est-ce que j'aurais envie de lui dire ? J'aurais envie de lui dire « tu vas en chier ». Et ça s'arrêtera pas. Par contre, tu vas vraiment faire quelque chose de bien. Et ça va être long. Et ça va en valoir la peine. Mais ouais, tu vas en chier. Down by the Water de PJ Harvey a aussi été choisi par Stéphanie. C'est tout simplement sa chanson préférée. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Prix de la Passion. Il a été réalisé par Mathilde Largeteau, le générique est de Florian Ricci, l'habillage sonore et le mixage de Thomas Juvet et l'illustration de Laura Zuliani. Vous avez aimé cette histoire et vous souhaitez nous contacter ou contacter son narrateur ? N'hésitez pas à nous écrire sur bonjour@passion.audio. Nous sommes aussi présents sur Instagram, Facebook, ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Tapez simplement « Fruit de la Passion ».